Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, cette avancée de l'armée, elle a récupéré ce matin le centre commercial de Boulé en Ituri après de violents combats. Ce site était occupé depuis un mois par la milice CRP. Les experts congolais sont bien d'accord pour consolider les relations entre leur pays dans la défense et la sécurité, notamment pour lutter contre les crimes transfrontaliers. C'est ce qui ressort de la 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité clôturée hier à Lubumbashi. Et puis l'épidémie de choléra qui continue sa progression dans la province du Haut-Lomami est fait de ravages. D'après le ministre provincial de la Santé, la situation nécessite l'implication du gouvernement ainsi que des partenaires. Adela Oumba est notre invité. Bonjour madame, monsieur. Nous ouvrons ce journal en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent de nouveau le centre commercial de Boulé dans le territoire de Djougou depuis ce vendredi matin. Selon des sources sécuritaires, c'est après de violents combats contre les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Cette milice avait investi cette cité il y a plus d'un mois. Aucun bilan de ces affrontements n'est disponible jusque-là. Le point avec Martial Kizabiamungu.
C'est vers 5h ce matin qu'une nouvelle unité de FRDC a lancé une offensive contre les éléments de la CRP de Thomas Lubanga au centre commercial de Boulé. Plusieurs sources concordantes dans la région affirment que les forces loyalistes ont réussi à déloger ces miliciens au centre de Boulé. Mis en déroute, la plupart de ces renégats ont fui vers leur bastion déroulé. Nous avons vu certains corps gisir au sol, mais sans plus de précision, témoigne un habitant joint au téléphone depuis Boulé. En fin de matinée, des tirs sporadiques étaient toujours entendus à Boulé et ses environs. Les porte-parole des phares de Ciel Ituri promet de donner plus de détails sur cette reprise de Boulé une fois terminée l'opération de ratissage et de domination du terrain par le FRDC. Depuis un mois et demi, les centres de négoce de Boulé est le théâtre des affrontements quasi quotidiens entre l'armée et la CRP. Ces derniers sont accusés, entre autres, d'utiliser des enfants comme boucliers humains. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Uele, la société civile de solidarité du territoire de Ouattara fustige le silence des autorités provinciales autour de l'insécurité chronique dans cette entité. Cette prise de position intervient 3 jours après le drame survenu mardi dernier dans la carrière dénommée Miracle, située à plus ou moins 6 kilomètres de Ouattara. Ici, des hommes armés ont tiré sur des orpailleurs ainsi que des négociants et pillé le bien de la population. Une personne a succombé à ses blessures, tandis que 6 autres blessés sont actuellement hospitalisés. Nous faisons le point avec Jacques Concolais.
L'insécurité est devenue chronique dans le territoire de Ouattara, spécialement dans les carrières minières. Malgré les cris d'alarme de la population, la situation ne change. Cependant, ce qui est marrant, c'est le silence des autorités face à leurs demandes instantes, regrette Jean-Pierre Atsidri, président de la Société civile des solidarités de cette entité.
Nous ne savons plus quoi dire. Nous avons déjà sollicité la mutation de ces commandants qui ont déjà fait longtemps ici, qui sont devenus comme des chefs coutumiers. Rien ne s'est fait. Ça s'est fait ailleurs. Mais pourquoi on refuse de déplacer ceux de Ouattara-Durba? Le taux d'insécurité a terriblement augmenté.
La colère de cette structure citoyenne se justifie par le fait que les militaires ne soient pas intervenus lors de l'incursion d'hommes armés mardi dernier dans leur carrière située non loin d'une position militaire. Les assaillants ont opéré calmement 1h à 3h du matin, dit-il. Au cours de ces incidents, une personne a été tuée par balle, 6 autres blessés et des biens de la population emportés. Contacté, le porte-parole du gouvernement provincial Emmanuel Arama a promis de se prononcer après la publication du rapport irrelatif par son collègue de l'intérieur, Jacques Mkonkole. Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, une marche organisée ce jeudi dans la cité de Kongolo par la jeunesse a été étouffée par les forces de l'ordre. Les manifestants ont voulu protester contre la restauration de la taxe de péage par les autorités provinciales. Ils exigent aux autorités la réhabilitation au préalable de routes du Kongolo qui sont dans un état de délabrement très avancé avant la restauration de cette taxe. Ces informations de Paulin Munanga sont rendues ici par Jean Gandou.
Après plusieurs minutes des négociations avec les autorités locales, les organisateurs de la marche ne sont pas parvenus à descendre dans la rue. Ils ont été obligés de lire leur mémorandum sur les lieux prévus pour le départ de la marche devant l'administrateur du territoire assistant de Congolo en charge de la politique et de l'administration. Quelques-uns s'expriment.
Nous nous sommes acquittés de la taxe péage durant 3 ans. Toutes les routes de Congolo sont toujours délabrées. Qu'on arrange d'abord les routes et nous allons nous acquitter de cette taxe.
Ce qui explique notre présence en ce moment, c'est la déception que la population de Congolo exprime par rapport à la réactivation de la taxe péage au niveau de Congolo. D'autant plus que Congolo ne bénéficie d'aucune route, même aménagée, même les nids de poules sont toujours comme ça. Profonde déception, vu que c'est lui-même qui défendait cette cause jadis, revient avec force et imposition avec la même taxe.
Signalons que le directeur provincial de la coordination péage du Tanganyika a, dans un communiqué du 7 janvier dernier, informé les autorités et la population que le paiement de la taxe péage a officiellement repris sur toute l'étendue de la province du Tanganyika à dater du 10 janvier dernier, sans en donner les raisons. Cette taxe était suspendue par le gouverneur du Tanganyika. Nous ne sommes pas parvenus à joindre le directeur provincial de péage du Tanganyika pour en savoir plus.
Les experts congolais et zambiens se sont engagés à consolider les relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité entre leurs deux pays. Ils vont notamment mettre sur pied des stratégies pour lutter contre les crimes transfrontaliers. Engagement pris au cours des travaux de la 14e session de la commission permanente mixte aux défenses et sécurité entre la RDC et la Zambie. Travaux clôturés hier jeudi à Lubumbashi. Le point avec vous pour la Munanga.
Le ministre zambien de l'Intérieur insiste sur une étroite collaboration entre les services de sécurité pour renforcer les relations entre les deux pays. Il souligne que la paix et la sécurité favorisent la croissance économique. Jacob Mouindou. Il est impératif pour nos services de sécurité de maintenir la collaboration dans la défense et la sécurité et d'échanger les informations. Nous reconnaissons le fait que sans la paix et la sécurité, nos ambitions pour la croissance économique seront difficiles à atteindre. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, fait savoir que les débats de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie a mis en évidence les questions liées au terrorisme, à la criminalité transnationale, au banditisme et à l'empiètement de la ligne frontalière. Signalons que les chauffeurs étrangers des camions poids lourds, notamment des Zambiens qui empruntent la route nationale numéro 1 axe Kasumbalesa, se plaignent souvent de la criminalité dont ils se disent victimes. Les résolutions de cette commission n'ont pas été rendues publiques. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et direction le Nord Kivu à présent. Plusieurs agriculteurs du territoire de Rutshuru délaissent la culture du soja. Ils affirment que non seulement les récoltes baissent à cause des aléas climatiques, mais comparativement aux haricots, le prix du soja est faible. Plusieurs agriculteurs témoignent que depuis les dernières saisons culturales, ils ont délaissé le soja. Mais pour les experts en nutrition, le soja est essentiel dans la lutte contre la malnutrition dans cette zone, surtout en ces temps de crise. Alors, comment convaincre les cultivateurs de sauver cette filière? Rosalie Sawadi explique.
Pour Roger Kavalami, agriculteur de Kiwanja, la comparaison est insupportable. Alors qu'il voit ses voisins ayant opté pour les haricots, récolter et vendre leurs produits en seulement 2 mois ou 2 mois et demi, il doit patienter 1 mois supplémentaire pour vendre son soja. En plus des aléas climatiques, ce qui lui fait encore plus mal, c'est de voir que sur le marché de Kiwanja, les soja se vendent à un prix bas que celui des haricots, malgré des efforts de production plus intenses.
Avant, nous vendions le soja à un bon prix. Nous pouvions vendre un sac à 100 dollars et même plus. Mais aujourd'hui, les prix ont vraiment baissé. C'est pourquoi nous optons pour les haricots qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Il y a des variétés de haricots qu'on peut vendre à 70 dollars le sac, d'autres 100 dollars, et quelquefois, les prix grimpent jusqu'à 120. Mais le prix du soja reste toujours faible.
Dans cette zone, de nombreux ménages ajoutent les soja à leurs plats pour prévenir la malnutrition, surtout chez les enfants dans les contextes des crises actuelles. Damien Sibomana, enseignant des cours de nutrition dans une école secondaire de Kiwanja, invite les agriculteurs à maintenir cette culture pour l'intérêt de la communauté. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nous restons en Nord Kivu. Au moins 28 personnes ont perdu la vie et 5 autres ont été blessées dans le glissement de terre survenu la nuit de mardi 13 janvier aux environs du nord du matin dans le sous-village de Borutsi. C'est dans le groupement de Luberiki, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale. Dans un récent rapport, les autorités coutumières locales affirment que le drame a également provoqué d'importants dégâts matériels. Ces informations collectées par Bernardin Nyangui sont rendues ici par Rosalie Zawadi.
Les sources coutumières indiquent qu'en plus des morts et blessés, 17 ménages sinistrés ont été identifiés et 24 maisons détruites ou entièrement ensevelies. D'après plusieurs acteurs de la société civile, 23 des 28 corps sortis des décombres ont déjà été identifiés. Quant aux 5 sans identité, ils estiment qu'ils pourraient être des voyageurs de passage surpris par la catastrophe durant leur transit nocturne dans le village. Pour rappel, la catastrophe s'est produite pendant de fortes précipitations enregistrées dans la région. Une importante masse de terre s'est détachée de la colline Mouanga qui surplombe le village de Burutsi ce 13 janvier à 1h du matin. Les éboulis ont tout emporté sur leur passage, arbres, habitations ainsi que plusieurs personnes qui dormaient encore. À ce jour, le village apparaît totalement dévasté. Une portion de la route Goma-Massissi-Walikale est désormais ensevelie sous les décombres. Les dizaines de familles sinistrées se retrouvent sans abri et expriment un besoin urgent d'assistance humanitaire, rapportent nos sources locales.
Toujours au Nord Kivu, au moins 3000 conducteurs d'engins roulants de la ville de Beni participent depuis mardi à une séance de recyclage obligatoire sur le nouveau code de la route. Elle est organisée par la Commission nationale pour la prévention routière, CNPR, pour 3 semaines. Cette remise à niveau vise à familiariser les conducteurs au code de la route afin de réduire le nombre d'accidents dans la ville. L'initiative est bien accueillie par les bénéficiaires, nous dit Marc Marofimbo.
Les conducteurs d'engins roulants de Beni saluent cette initiative qui, selon eux, va leur permettre de sortir de l'ignorance des règles de la circulation routière dans laquelle ils conduisaient jusqu'ici. Ezekiel Mouindo, l'un d'eux, explique sa motivation.
Ça faisait longtemps depuis qu'on pouvait utiliser les engins roulants, ça qu'on a senti le méfait qui peut en provenir. Et en plus, quand on roule dans cette ville qui est devenue plus pléthore, on ne sait pas comment se conduire, mais à partir du recyclage, en tout cas, nous avons été très bien formés. À telle enseigne que nous sommes amusés de conduire tout en respectant les codes prescrits par la CNPR. Ça nous a aidé vraiment.
Pour le coordonnateur chargé du recyclage à la CNPR, Dieudonné Banga, la baisse sensible des accidents est le principal résultat attendu de cette initiative.
On a constaté qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ne sont pas recyclés sur le nouveau code de la route. Or, la cause principale de ces accidents, c'est l'ignorance des règles de circulation routière, c'est-à-dire le code de la route. Et à partir de cette formation, il y aura baisse d'accidents de circulation routière. Ça, nous sommes rassurés.
Selon les rapports statistiques de la Police nationale de circulation routière, la ville de Beni a enregistré plus de 100 accidents l'année dernière, causant la mort d'une dizaine de civils, avec plus de 50 blessés graves et des dégâts matériels importants. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Le responsable de la direction générale de recettes de Kasaï Central, Déjarkak, et son adjoint sont suspendus de leurs fonctions. La décision est du ministre provincial des Finances du Kasaï Central. À travers une lettre datée d'hier jeudi, le ministre évoque un rendement jugé faible au regard des assignations budgétaires fixées par la province. Il déplore la stagnation des recettes malgré les moyens de mobilité mis à leur disposition pour améliorer l'efficacité de la collecte sur terrain. Les deux sont appelés à fournir des justifications claires face aux greffes retenues contre eux. À noter que cette mesure s'accompagne de l'ouverture d'une action disciplinaire à leur encontre.
Actualité internationale.
En Ouganda, candidat à un 7e mandat, Yoweri Museveni est en tête des élections d'hier avec 61,7% des suffrages valides exprimés jusqu'à présent. C'est ce qui ressort des premiers résultats provisoires publiés par la commission électorale ougandaise. Pour le président de cette commission, l'élection s'est déroulée dans un climat globalement pacifique. Il précise que le dépouillement des votes est terminé dans de nombreuses régions. Samia Hassan, la présidente tanzanienne, est revenue sur la coupure d'Internet qui a duré 6 jours alors que le pays connaissait ses pires violences post-électorales. Des propos tenus ce jeudi lors d'une rencontre avec les diplomates et les ressortissants étrangers vivant en Tanzanie. Devant les invités du jour, la présidente a exprimé sa sympathie et a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que de tels événements ne se reproduisent plus jamais.
L'invité.
L'épidémie de choléra continue sa progression dans la province du Haut-Lomami et fait de ravages. D'après le ministre provincial de la Santé, la situation est préoccupante et nécessite l'implication du gouvernement et des partenaires pour éradiquer cette maladie qui a déjà causé de nombreuses victimes. Pour en parler, Adela Umba, ministre provincial de la Santé du Haut-Lomami, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le ministre Adela Umba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est la situation du choléra dans la province du Haut-Lomami?
D'entrée de jeu, il faut dire que le Haut-Lomami connaît une situation triste, grave, en rapport avec l'épidémie de choléra dans les deux territoires de notre province, celui de Malembankoulou et de Bukama. À ce jour, il faut dire que pour la semaine numéro 2 seulement de 2026, 290 cas et 6 décès, soit 2% de létalité. Et principalement, les zones de santé qui ont rapporté des cas, c'est notamment Boutoumba avec 103 cas et 3 décès. Il y a la zone de santé de Kabondo-Dianda avec 56 cas, à la zone de Kikondja et les autres. Cependant, il y a l'inquiétude par rapport à la zone de santé de Kitenge qui n'est pas dans l'axe fluvial, qui notifie aussi les cas et on y a déjà fait quelques décès. Donc, la situation de manière générale est très préoccupante dans les Haut-Lomami par rapport au choléra.
Et qu'est-ce qui peut bien justifier cette situation?
Il faut dire clairement que les zones de santé dans les deux territoires vivent avec le choléra, évitant que le choléra est vécu comme une endémie, ça veut dire chaque fois le choléra est dans ces zones de santé, mais chaque fois quand il y a des doublements de cas, on peut dire qu'il y a épidémie. Chaque fois qu'il y a pluie dans ces zones de santé, allez-y comprendre que les gens n'ont pas de toilettes, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Dès qu'il y a pluie, les matières fécales sont emportées par les eaux vers les rivières, vers les lacs, vers les fleuves. Comme la population riveraine utilise cette même eau pour se laver, pour boire, donc ils prennent les germes qui causent le choléra et finalement se contaminent.
Est-ce que l'année dernière, la province du Haut-Lomami avait connu beaucoup de cas de choléra?
En 2025, le Haut-Lomami a eu à notifier de 6300 quelques cas, 200 quelques décès qu'on a enregistrés. C'était la volonté politique du gouverneur du Haut-Lomami, honorable Banzamulume Marmon, on connaîtrait une situation catastrophique, pire que ça.
Est-ce que vous avez les intrants nécessaires pour y faire face?
Il y a eu l'achat d'un grand lot d'intrants de lutte contre le choléra qui était distribué dans toutes les 8 zones de santé de ces deux territoires. Mais l'épidémie, au fait, était sévère, telle que tout ce lot a été épuisé. Il y a eu quelques intrants provisionnés par l'OMS, mais toute cette quantité-là, à ces jours, s'avère insuffisante ou déjà terminée. C'est un cri d'alarme pour nous tous, comme gouvernement provincial. Nous nous attendons déjà à faire un appui supplémentaire, étant donné que nous sommes une province enclavée. Nous dépendons de Lubumbashi, des infrastructures routières pendant cette période de pause, des soucis, mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est notre population, nous tenons. Mais que voulez-vous, vu la gravité de l'épidémie, nous avons tout intérêt, c'est que le gouvernement central, tous les partenaires qui nous appuient, puissent nous venir au secours à la province, malgré les efforts que nous sommes en train déjà de faire. Nous avons besoin de l'intervention du niveau national, des partenaires techniques et financiers qui nous appuient chaque fois pour que nous puissions faire face à cette épidémie.
Avant que nous puissions terminer, Monsieur le ministre, à la population, quelle attitude doit-elle prendre pour éviter la propagation de cette maladie?
À la population du Haut-Lomami, nous réitérons le même message. Dès qu'il y a une personne qui a des signes en rapport avec le choléra, la diarrhée principalement, peut y avoir des vomissements, tout ça, de consulter la structure sanitaire la plus proche pour être prise en charge au lieu de traîner dans la communauté avec le traitement indigène. Et Nous demandons à la population qui n'est pas encore contaminée de respecter les mesures hygiéno-diététiques. Ça veut dire traiter l'eau de boisson, la bouillir et la refroidir avant de la boire. Nous avons des produits que nous utilisons, tels que le chlore, les aquatables, sondes aquatables, que nous utilisons qui sont dans ces zones-là, de s'en attirer ou d'en avoir ou essayer de mettre dans l'eau avant la boire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Je vous en prie.
Adelar Oumba, ministre provincial de la Santé du Olomami. Merci à vous qui avez suivi ce journal préparé par Jean Kandou, mis en onde par Dieudonné Yangassa. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté. Passez un excellent après-midi à l'écoute de la fréquence de la paix.